événements qui ont conduit à la Révolution française et l'impact qu'a eu la Révolution française pour ce qui est de l'histoire de l'Église. Alors, on avait commencé à voir ce qui concernait les pays orthodoxes. Aujourd'hui, on va voir l'évolution des pays catholiques. Dans les pays catholiques, la lutte pour la tolérance a été infiniment plus difficile qu'ailleurs, pour des raisons évidemment faciles à comprendre. Les pays catholiques, c'est-à-dire essentiellement les pays du sud de l'Europe. Bon, Espagne, Portugal, on était encore un petit peu dans la lancée de la reconquête, la lutte contre les musulmans, et il n'y avait absolument pas de place, évidemment, pour un pluralisme quelconque. Et le protestantisme qui avait tenté de s'implanter en Espagne à partir de deux centres essentiels, Séville d'une part au sud et Valladolid au nord, ont été impitoyablement éradiqués par l'Inquisition en particulier, qui n'était pas créée pour eux, qui a été créée pour les Juifs essentiellement, puis ensuite pour les musulmans, mais qui a fonctionné aussi contre les protestants. Bon, en Italie, eh bien, la présence évidemment du pape à Rome faisait que une présence protestante qui avait été importante, nous l'avons vu au XVIe siècle, n'a pas pu non plus subsister durablement devant justement les différentes persécutions qui se sont abattues sur les protestants. En Italie, il y a une exception néanmoins. C'était dans les montagnes des Alpes, la présence des Vaudois. Les Vaudois, qui existaient depuis le XIIe siècle, nous avons vu, qui avaient déjà été à cette période-là terriblement persécutés, et qui avaient subsisté contre vents et marées, justement dans ce qu'on appellera les vallées vaudoises, c'est-à-dire dans des refuges quasiment inaccessibles dans les montagnes, où la répression était extrêmement difficile, mais pas impossible. Mais il est bien évident que lorsque les princes de Savoie, en particulier, dont dépendaient les vallées vaudoises, étaient occupés à des choses plus urgentes et plus importantes que traquer quelques bandes d'hérétiques, enfin du moins ce qu'ils considéraient comme des hérétiques, les Vaudois avaient le temps de respirer. La réforme va apporter aux Vaudois une bouffée d'oxygène, dans ce sens que les Vaudois vont se retrouver peu ou prou dans les doctrines des réformateurs. Et on va avoir alors un phénomène tout à fait intéressant, c'est que d'abord on est très près de Genève, n'est-ce pas, depuis les vallées vaudoises, la distance est quand même restreinte. Genève était aussi au départ sous l'autorité des ducs de Savoie, exactement donc comme les vallées vaudoises. Il y a eu un certain nombre de Vaudois qui sont allés à Genève, s'entretenir avec Calvin. Calvin lui-même a fait parfois des détours par l'Italie, n'est-ce pas ? Tant et si bien que finalement, les Vaudois vont se rallier à la réforme et vont devenir un des éléments de la réforme. Et à l'époque qui nous intéresse, au XVIIIe siècle, il va y avoir un espèce de modus vivendi qui va se créer entre les représentants des églises vaudoises et puis le duc de Savoie. N'oublions pas qu'à cette époque, l'Italie est un pays qui est morcelé en un certain nombre de petits États indépendants, dont le principal est l'État du Pape, qui est au centre de l'Italie, le nord du pays étant donc sous la direction des ducs de Savoie, qui aussi, un siècle suivant d'ailleurs, deviendront rois de toute l'Italie, quand se produira l'unité italienne. Mais on n'est pas encore là à l'époque. Et alors, le duc de Savoie accorde aux Vaudois une certaine liberté, pratiquement une liberté totale. Et enfin, les Vaudois vont pouvoir respirer. Autre pays qui va connaître des vicissitudes à cette période-là, c'est la Pologne. La Pologne, où il y a eu donc une implantation protestante importante, venue d'Allemagne. Et là, nous allons avoir alors un renversement de situation. Au XVIIIe siècle, les jésuites, c'est-à-dire l'aile marchande de la contre-réforme, créée donc précisément pour combattre l'hérésie protestante, entre guillemets, vont être appelés par la noblesse. La noblesse polonaise va être acquise à la cause de la contre-réforme, va être acquise à la cause des jésuites, et au moment même où, dans d'autres États, nous allons voir ça dans un instant, y compris des États catholiques d'ailleurs, n'est-ce pas, les jésuites vont être chassés, eh bien, ils vont trouver un accueil quasiment illimité en Pologne. Et les jésuites vont se mettre à l'ouvrage immédiatement pour traquer justement la réforme. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques années, Il sera totalement interdit de construire des nouveaux temples. Et sous l'influence des jésuites, les princes polonais vont retirer aux protestants les droits civiques. Seulement, ils ne se rendent pas compte qu'en agissant de cette manière, ils vont avoir finalement le même sort que la France du roi Soleil, du roi dit Soleil du moins, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la persécution des protestants, la diminution de l'influence protestante, de l'initiative protestante qui était l'aile marchande de la Pologne, avec d'ailleurs le judaïsme, hein, c'était les deux forces qui ont créé la Pologne, si on peut dire, n'est-ce pas ? Et alors là, la réforme, la Pologne va revirer, si vous voulez, sous l'influence des jésuites, à un catholicisme pur et dur qui va demeurer jusqu'à ce jour. Hein, la Pologne est un des États catholiques les plus durs encore aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, même le communisme s'est cassé les dents sur le catholicisme polonais. Eh bien, la persécution des protestants va provoquer tout simplement le déclin de la Pologne. Et à cette période, la Pologne va entrer en déclin et préparer ainsi la destruction du pays et les partages qui mettront fin à son existence quelques années plus tard. Donc, si vous voulez, de la même manière que la persécution des Huguenots avait provoqué le déclin de la France au XVIIe siècle, de la même manière, la persécution des protestants en Pologne va préparer le déclin de la Pologne et l'élimination de la Pologne en tant qu'État. L'État polonais va être détruit parce que précisément, il ne sera plus capable, il n'aura plus la force morale, économique, de faire face finalement à ceux qui veulent s'en emparer. Un autre État qui, à cette époque-là aussi, est travaillé par l'esprit de contre-réforme catholique, c'est la Hongrie. La Hongrie qui vient d'échapper de peu à la conquête turque, la conquête musulmane, quelques temps auparavant, n'est-ce pas, les Turcs ont été arrêtés sous les murs de Vienne, nous l'avons vu. Et là, n'est-ce pas, il y a un reflux musulman à cette période-là. La Hongrie est libérée, mais c'est pour tomber au pouvoir des empereurs d'Autriche. Et petit à petit, la Hongrie va passer sous la coupe, n'est-ce pas, de la monarchie des Habsbourg d'Autriche. Et comme conséquence, eh bien, les protestants vont être persécutés. Les protestants qui étaient nombreux dans cette région-là. Mais comme ils sont nombreux, précisément, en Hongrie, eh bien, ils vont entrer en résistance. Il va y avoir une formidable résistance des protestants hongrois, y compris d'ailleurs parfois violente par la force des armes, tant et si bien que finalement le pouvoir des Habsbourg, qui est un pouvoir ultra-catholique, ultra-conservateur, oppresseur, eh bien, va être obligé de composer et finalement de permettre la liberté aux protestants. Néanmoins, c'est quand même un coup d'arrêt à l'influence protestante en Hongrie, et là, les choses vont quand même être assez négatives pendant toute la durée du XVIIIe siècle, dans ce sens que les jésuites, qui se sont infiltrés aussi en Hongrie, vont continuer leur opposition, non plus d'une manière ouverte, puisque maintenant les lois ne leur permettent pas de le faire à visage découvert, mais il va y avoir une espèce de conquête rampante, n'est-ce pas, des jésuites qui vont tenter de grignoter petit à petit les libertés acquises par les protestants et l'influence qu'ils ont prise. Et c'est ainsi que les jésuites, par l'intrigue, par l'éducation, par la corruption, par toutes sortes de moyens plus ou moins avouables, vont réussir à reconquérir des dizaines et des dizaines d'églises qui vont redevenir catholiques, des dizaines d'églises protestantes qui vont redevenir catholiques. En Autriche, la persécution, là, ne se cache pas. Elle est nette, claire, n'est-ce pas, sans aucune bavure, si je puis dire. Et c'est ainsi, par exemple, que dans les premières années du siècle, les protestants sont expulsés tout simplement de la ville de Salzbourg, la patrie de Mozart, n'est-ce pas, comme d'autres lieux d'Autriche. Par exemple, il y aura, pendant le réveil morave, nous aurons l'occasion d'en parler quand nous parlerons du réveil morave dans quelques temps, il y a eu une influence assez grande du réveil morave en Autriche, et en fin de compte, les frères moraves seront obligés de s'exiler pour se réfugier en Saxe, en Allemagne, qui est beaucoup plus tolérante, bien évidemment, puisque là, il y a des États qui sont ouvertement protestants. En Prusse, qui est un État protestant dès sa fondation, n'est-ce pas, qui a accueilli, nous l'avons vu, les protestants, les huguenots français, en particulier après la révocation de l'édit de Nantes, il y a à cette période-là un souverain qui se nomme Joseph II, 1790, qui se veut un de ces despotes éclairés dont nous avons parlé, c'est-à-dire un homme qui était ouvert aux idées de ce que l'on appelait les Lumières. Et en tant que tel, donc, il se voulait tolérant. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose pour les protestants qui étaient de toute façon majoritaires en Prusse et qui avaient la liberté depuis toujours, si j'ose dire. La seule différence, c'est que précisément maintenant, des catholiques vont être aussi acceptés en Prusse, ce qui, après tout, est tout à fait normal et sur lequel il y a un article. Bon. En Bohême, c'est-à-dire dans l'actuelle Tchécoslovaquie, si vous voulez, où il y avait eu donc une présence protestante très forte, qui avait été un État disputé, n'est-ce pas, pied à pied, au moment de la réforme, de la contre-réforme, puisque c'était, n'oublions pas non plus, la patrie de Jean Hus, n'est-ce pas. La Bohême était redevenue catholique au XVIIe siècle, et là, eh bien, le protestantisme va refaire surface en Bohême, et à nouveau, il va y avoir une importante minorité protestante qui va se créer là. La France, bien entendu, la France, on en a parlé beaucoup, c'est pas la peine d'y revenir. Il y a encore à cette période-là une émigration importante, relativement importante en tout cas, de protestants, qui, surtout des frontaliers. Par exemple, il y a une émigration très importante de protestants qui sont dans la région de Montbéliard, de Colmar, enfin de toute cette région-là, si vous voulez, qui sont à la frontière, si vous voulez, de l'Allemagne ou de la Suisse, et qui, lorsque la persécution a tendance à devenir un petit peu trop dure, n'ont pas loin à s'exiler, si vous voulez, pour s'enfuir. Il leur suffit de traverser la frontière quelques kilomètres plus loin, et ils ont la possibilité de vivre leur foi dans la liberté. C'est le cas notamment des Mennonites. Les Mennonites, qui précisément habitent dans cette région-là, et qui sont régulièrement persécutés. Or, les Mennonites vont avoir comme politique précisément de vivre à proximité des frontières, de façon à ce que si on les persécute dans un pays, comme disait Jésus, ils passent dans un autre, et puis si la persécution éclate dans le pays d'accueil, ils peuvent repasser dans le premier pays quand les choses se sont un petit peu calmées. Bon, à cette période-là, en face de Montbéliard se trouve la principauté de Bâle, en Suisse, n'est-ce pas ? Et l'évêque de Bâle, c'est très intéressant de noter, accueille ceux qui sont persécutés, n'est-ce pas ? Et notamment, justement, ceux qui sont persécutés, les catholiques aussi, qui sont persécutés par les autorités allemandes, les autorités protestantes de Suisse, des cantons protestants de Suisse. Donc là, si vous voulez, il y a donc une évolution qui amène une redistribution des cartes, mais pas fondamentale. En 18e siècle, finalement, les frontières entre protestantisme et catholicisme, qui s'étaient plus ou moins cristallisées au moment de la contre-réforme, sont un petit peu modifiées, mais rien de fondamental, finalement, n'a lieu à cette période-là. Par contre, ce qui va se passer dans les pays catholiques, c'est, comme dans les pays protestants, un affaiblissement de la foi sous l'impact, justement, de la fameuse philosophie des Lumières. Et la philosophie des Lumières qui a ravagé les pays protestants ne va pas non plus épargner les pays catholiques, et les pays catholiques vont aussi être touchés. Le point essentiel, si vous voulez, qui va être un sujet de discorde entre l'Église catholique et les États au sein desquels elle est établie le plus fortement, c'est l'apparition de la notion d'État. Avec la philosophie des Lumières, si vous voulez, naît la notion d'État au sens moderne du terme. Et notamment l'idée qui est inspirée par les philosophes d'idées Lumière, de l'autonomie de cet État par rapport à l'Église. Enfin, l'État lui-même, si vous voulez, en tant qu'entité, était né, si vous voulez, à la Renaissance, avec l'humanisme. C'est vraiment que, d'ailleurs, la notion d'État est un des produits de l'humanisme. Les États centralisés français, en particulier avec François Ier au XVIe siècle, avec Henri VIII en Angleterre, avait été déjà un défi pour l'Église catholique, l'Église de la fin du Moyen Âge, qui était encore restée dans la pensée, n'est-ce pas, de l'hégémonie du pape sur les empereurs, sur les rois, n'est-ce pas. Et un nouveau coup est porté à, si vous voulez, l'autorité de l'Église catholique sur les États par justement la philosophie des Lumières, dans ce sens que les philosophes prônent l'autorité totale de l'État par rapport à l'Église. Et cette notion conduira, au moment de la Révolution française, à la notion de séparation de l'Église et de l'État, qui est quelque chose de tout à fait nouveau, qui était tout à fait inconnu, tant dans les États catholiques, d'ailleurs, que dans les pays protestants. Finalement, la réforme du XVIe n'avait pas remis en question la liaison, si vous voulez, entre l'Église et l'État. Et dans les États où le protestantisme était majoritaire, il était lié à l'État exactement comme le catholicisme l'était dans les États où le catholicisme était majoritaire. Alors, ici, pour la première fois, naît cette idée que l'État doit être neutre au point de vue religieux, au point de vue spirituel. Et que finalement, l'option religieuse est une affaire privée de l'individu. L'humanisme, nous l'avons vu, l'humanisme du XVIIIe siècle prône l'individualisme, hein, le primat de l'individu sur le collectif, pour reprendre Rousseau en particulier là-dessus, n'est-ce pas ? Et puis, automatiquement, si vous voulez, il y a une tendance à privatiser une foule de choses. Des choses qui étaient du domaine public, ça va être le cas, par exemple, point de vue économique, n'est-ce pas, ça va naître avec la philosophie des Lumières et la Révolution française, le libéralisme économique qui va donner naissance au capitalisme au siècle suivant. N'est-ce pas, c'est un des produits aussi de la philosophie des Lumières. Hein, et actuellement, le capitalisme triomphant est triomphant tout simplement parce que l'humanisme aujourd'hui dans notre société est triomphant. Bon, c'est né à ce moment-là. Bien, donc, autonomie de l'État par rapport à l'Église, et puis aussi, primat de l'État sur tout le reste, en fin de compte. Il y a, avec les Lumières, et avec la Révolution française en particulier, une véritable sacralisation de la notion d'État. L'État, qui est finalement l'incarnation de ce que Rousseau appelait le contrat social, c'est-à-dire en principe l'incarnation de la volonté des citoyens, eh bien, l'État prime sur absolument tout le reste. Et en particulier sur les options religieuses des citoyens qu'il compose. C'est-à-dire que quand il y a conflit entre les lois d'État et puis les lois religieuses, eh bien, ce sont les lois religieuses qui doivent céder le pas et les lois de l'État qui doivent avoir la primauté. Et ça, vous retrouvez ça aujourd'hui, à nouveau réaffirmé avec une force sans égale, et précisément pour les églises, quelles qu'elles soient, y compris l'Église catholique, par exemple, c'est un problème majeur. Par exemple, le conflit sur l'avortement part de cette notion, n'est-ce pas ? Et dernièrement, des ministres, ou je ne sais plus, quelqu'un qui avait, membre du gouvernement en tout cas, n'est-ce pas, disait que la loi votée en 1973 autorisant l'avortement est sacrée. C'est énorme de dire une chose pareille. La loi est sacrée. Et par conséquent, ceux qui y touchent, au nom de convictions que l'on prétend être religieuse, parce qu'on ne peut finalement s'opposer à l'avortement que pour des raisons religieuses, dit-on. Donc, religion, affaire privée, la religion n'a pas à intervenir dans la marge de l'État. C'est pas ? Séparation de l'Église et de l'État, l'État est tout à fait autonome, et par conséquent, au nom de principes religieux, on n'a pas le droit d'intervenir dans les lois de l'État. Alors, on a beau juste répondre, bien, l'opposition à l'avortement peut être motivée par des raisons religieuses, mais n'est pas obligatoirement motivée par des raisons religieuses. C'est une défense, tout simplement, du caractère sacré de la vie humaine, tout simplement. Ça, on ne veut pas le savoir. C'est du ressort de la religion. Donc, automatiquement, ça n'a plus rien à voir. Parce que dans la notion des philosophes du XVIIIe siècle, et finalement des humanistes modernes également, n'est-ce pas, l'État incarne le droit. Il est l'incarnation du droit, il est l'incarnation de la raison, qui était primordiale pour les philosophes du XVIIIe siècle, n'est-ce pas ? Et par conséquent, l'État se doit de contrôler tous les aspects de la vie des citoyens. Alors, quand on affirme des choses comme ça, on ne se rend pas très bien compte qu'on est en train d'affirmer une chose et son contraire. D'un côté, n'est-ce pas, on affirme la primauté de l'individu, donc de sa liberté, la liberté de l'individu. Et d'un autre côté, n'est-ce pas, on affirme que l'individu doit être contrôlé par un État tout-puissant qui a le droit de regard dans tous les domaines de sa vie. Or, la notion d'État que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés dites démocratiques est exactement cette notion-là, cette notion qui est née au XVIIIe siècle. Et c'est pourquoi moi je ne me lasse de répéter à qui veut l'entendre que l'État, voilà l'ennemi. C'est sûr que là, poser comme ça le problème de l'État aboutit, qu'on le veuille ou non, à un État totalitaire, à un État dictatorial, ce qui sera le cas au moment de la Révolution française. Alors, ça, en théorie, c'est ainsi, bien sûr. Bon, dans les faits, il y a des moments où l'État est moins jaloux de ses prérogatives qu'à d'autres, et où par conséquent les libertés individuelles ou les libertés collectives sont plus grandes. Mais si vous voulez, dans son principe de base, il ne faut jamais oublier ça, les principes de base, l'État moderne, l'État dit démocratique, hein, est totalitaire. Il entend englober et contrôler toute la vie des citoyens. Or, aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que l'État moderne a les moyens de le faire. Il a les ordinateurs pour vous mettre en fiche, il a de quoi vous écouter, les écoutes téléphoniques, on en connaît des... On en a des exemples ces derniers temps. Il paraît que Mitran a espionné des milliers de personnes qui étaient sur écoute téléphonique sans qu'ils le sachent. C'est pas... bon, on a les moyens, et demain encore plus, n'est-ce pas, quand il y aura toutes les fameuses Internet, là, les autoroutes de l'information, toutes ces choses-là, bon, il y aura les moyens, n'est-ce pas. Même maintenant, il y aura les trucs infrarouges. On pourra voir même ce que vous faites chez vous, à travers des murs, etc. Le policier, bon, dans certains pays comme en Suède, suffit que un policier approche un petit appareil d'une plaque minéralogique d'une voiture, il est immédiatement connecté avec l'ordinateur central à Stockholm, mais c'est tout sur le propriétaire de la voiture. Son nom, s'il a été condamné pour ci, pour ça, pour quelle condamnation, pour quelle contravention il a eu dans sa carrière, son pédigré, sa profession, ça, tout, il sait tout sur lui, en un instant. Bon, c'est dangereux, que voulez-vous, c'est extrêmement dangereux. Hein? Eh bien, ça, c'est dans l'esprit même, si vous voulez, de l'humanisme du XVIIIe siècle. Alors, il est évident qu'avec de pareils concepts, le conflit entre l'État et les Églises, toutes les Églises, quelles qu'elles soient, catholiques, protestantes ou autres, était inévitable. Et dans les pays catholiques aussi, n'est-ce pas, cette notion d'un État autonome, d'un État... incarnation du bien, incarnation de la vérité, incarnation du droit, se fait jour. Et cela va avoir une réaction tout à fait inattendue, c'est que les jésuites, dans les pays catholiques, eh bien, vont être de plus en plus mal tolérés, de plus en plus mal supportés, parce que précisément, les jésuites sont exactement le contraire de ça. Les jésuites sont l'aile marchande de l'Église. Ils sont la continuation, si vous voulez, de l'Église du Moyen-Âge, d'Innocent III et de tous les papes de cette période-là, n'est-ce pas, qui pensent que l'Église doit régir les États. Si vous voulez, c'est le heurt de deux totalitarismes. Et finalement, on peut dire que, si vous voulez, dans la notion de l'État qui naît au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, il y a un transfert de la notion, si vous voulez, d'autorité qui est celle de l'Église catholique, mais dans le domaine laïque cette fois-ci. Alors ce sont deux totalitarismes qui vont se heurter. Et les jésuites vont voir dans l'esprit du XVIIIe siècle, évidemment, l'ennemi. Ils vont tout de suite comprendre. Et alors il va y avoir un conflit absolument irréductible jusqu'au XXe siècle, qui va durer jusqu'au XXe siècle. Après Vatican II, les jésuites vont un peu évoluer. Mais jusque pratiquement Vatican II, si vous voulez, il va y avoir un conflit absolument irréductible entre les jésuites et puis les États modernes, et puis la démocratie. Les jésuites vont être les adversaires acharnés de la démocratie, et la démocratie va être l'ennemi acharné des jésuites. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, les jésuites, par exemple, étaient interdits en Suisse. Aucun jésuite ne pouvait mettre les pieds sur le sol de la Suisse. Pourtant, la Suisse, un des États qui était donné comme l'un des plus démocratiques, à cause justement de cet esprit-là. Alors, les jésuites vont incarner l'esprit réactionnaire, D'autre part, n'est-ce pas, on a contre les jésuites aussi un autre grief très important, c'est que les jésuites disposent de richesses énormes, souvent occultes, dont on ne sait pas très bien la provenance. Et on a l'impression, n'est-ce pas, d'une espèce de pieuvre tentaculaire, n'est-ce pas, qui est mal cernée, qui est là, n'est-ce pas, qui agit dans l'ombre, et qui est hypocrite. Les provinciales de Pascal ont considérablement terni l'image de marque des jésuites dans l'esprit, non seulement de la plupart des Français, mais également des peuples voisins, n'est-ce pas, ça a voyagé, n'est-ce pas. Et alors, le résultat, c'est qu'au XVIIIe siècle, même des États catholiques vont chasser les jésuites. Vont chasser les jésuites de leurs frontières. Et puis même, quelque chose de tout à fait incroyable, le pape lui-même prononce la dissolution de l'ordre des jésuites. Mais les jésuites sont vraiment un État dans l'État, et y compris un État dans l'Église. Et ça, les adversaires des jésuites avaient raison. Et les jésuites n'acceptent pas de se saborder. Et ils vont se réfugier dans deux endroits où on n'aurait jamais pensé qu'ils puissent se réfugier. Le premier, c'est en Russie, pays orthodoxe, qui les accueille. Et le deuxième, c'est la Prusse, pays protestant. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que dans ces deux États, nous l'avons vu, il y a des despotes éclairés. Ça veut dire des gens qui sont acquis à l'esprit des Lumières, à l'esprit de tolérance. Et d'une certaine manière, Catherine II et Joseph II estiment que la liberté ne se divise pas et que s'ils revendiquent, eux, la liberté pour les protestants persécutés dans les États catholiques, eh bien, ils n'ont pas le droit de persécuter les catholiques qui sont au milieu d'eux, et même, ils se doivent d'accueillir ceux qui sont persécutés. Et les jésuites, qui sont parmi les maîtres en art de persécution, les jésuites, les persécuteurs persécutés, eh bien, vont être accueillis par des gens qui vont être des gens tolérants. Et c'est ainsi que les jésuites vont pouvoir se refaire, si j'ose dire. Bon, parmi les adversaires des jésuites, nous l'avons vu au siècle précédent, il y avait les jansénistes. Les jansénistes qui avaient été écrasés par les jésuites, il faut bien le dire, mais qui ont continué à exister, en tout petit nombre, mais qu'on retrouve au XVIIIe siècle, on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors là, c'est des groupuscules. Hein. Mais au XVIIIe siècle, ils forment des minorités qui ne sont pas négligeables dans des pays comme la Belgique, l'Espagne, l'Autriche et l'Italie. Hein. Et là, eh bien, les jésuites, bien que considérablement diminués, ne vont pas leur laisser de repos non plus. Ils n'ont pas oublié les conflits du siècle précédent, et les jésuites vont avoir alors une rancune tenace, n'est-ce pas, sans aucun pardon, sans pitié, sans rien. Et les jésuites font preuve d'un activisme incroyable. La notion d'obéissance militaire chez eux est la base de leur organisation, n'est-ce pas, leur devise, on la connaît, périndé à cadaver, obéir comme un cadavre, sans réfléchir, n'est-ce pas, sans aucune discussion, sans mettre en ordre, en doute les ordres, n'est-ce pas, en question les ordres. Ce sont des gens qui ont la conception, si vous voulez, que le religieux ne peut pas être autonome, ne peut pas être séparé, si vous voulez, du reste de la vie, et notamment du domaine politique. Et les jésuites sont particulièrement actifs dans le domaine politique, ce qui fait justement qu'ils vont être d'autant plus haïs. Au moment où les États modernes émergent au XVIIIe siècle, avec donc un sens jaloux de leurs prérogatives, de leurs droits, de leur autonomie, voir des gens, n'est-ce pas, qui essayent d'influer au nom de la religion dans leur sein, n'est-ce pas, eh bien, est intolérant. Et c'est pourquoi il y a cette levée de boucliers contre les jésuites à cette période-là. Autre point aussi qui fait problème, c'est cette espèce d'esprit de délation, de surveillance, d'espionnage, qui est celui des jésuites. Tout est mis en fiche, tout est centralisé. C'est quelque chose qui fait que personne n'est à l'abri d'une délation. jusqu'au sein de la curie romaine, n'est-ce pas? Il forme un véritable état dans l'Église, quoi. Hein. Et c'est pourquoi la curie romaine, finalement, vient un moment où la curie romaine ne supporte plus les jésuites et arrache au pape, comme on l'a dit tout à l'heure, l'abolition de l'ordre. Les souverains des États catholiques, donc, se dressent contre eux, le pape se dresse contre eux, les populations se dressent contre eux, même dans des pays comme, par exemple, le Portugal, qui était un pays ultra-catholique, où l'Inquisition faisait la loi, hein, eh bien, le Portugal même va se dresser contre les jésuites, pas l'Espagne, mais le Portugal. En France, Louis XV, n'est-ce pas, va intervenir contre les jésuites, et notamment une des grandes adversaires des jésuites sous Louis XV sera Madame de Pompadour, pour des raisons évidemment bien faciles à comprendre. Madame Pompadour n'était pas un parent converti, c'est évident, et par conséquent, elle supportait mal l'influence des jésuites, ça on peut le comprendre extrêmement facilement. Bon, à la fin du siècle, on verra, n'est-ce pas, des pays comme l'Espagne, cette fois-ci qui était restée ouverte, comme le royaume de Naples, ou même, justement, comme les États du pape, après l'abolition des jésuites par le pape, se dresser également contre eux. C'est vraiment la levée de bouclier générale dans toute l'Europe contre les jésuites. Bon, en Autriche, nous avons aussi un nouveau souverain qui arrive sur le trône, n'est-ce pas, qui se nomme Joseph, le fils de Marie-Thérèse, et qui lui aussi est gagné par la philosophie des Lumières. Il entend être un despote éclairé, il veut donc tout contrôler, et lui aussi va se dresser contre les jésuites. Et si vous voulez, la politique de Joseph va avoir un effet tout à fait inattendu, c'est qu'il va provoquer une révolution en Belgique. La Belgique, qui était un État qui était sous la domination autrichienne, jusqu'en 1776, et en 1776, il y a une révolution qui éclate en Belgique, précisément à cause de cette opposition, en particulier aux jésuites. La révolution est appuyée en sous-main par l'Angleterre, et finalement, en 1776, le pouvoir autrichien est obligé d'abandonner son contrôle sur la Belgique, et la Belgique devient ainsi indépendante. Du côté catholique, n'est-ce pas, on va tenter d'endiguer un petit peu cette débandade, parce que c'est quand même un peu une débandade, il faut bien le reconnaître. Et un ordre nouveau va être créé par un certain l'Algérie, qui va créer ce qu'on appelle l'ordre des rédemptoristes. Les rédemptoristes sont des gens qui ont des principes identiques à ceux des jésuites. Donc, c'est une remèque des jésuites, un petit peu, et qui ont pour but de maintenir la tradition de l'Église catholique. Ce sont eux, sous la direction de ce Lavigery, qui est donc né en 1696 jusqu'en 1787, il meurt en 1787, vont formuler une casuistique, c'est-à-dire, si vous voulez, un code à l'usage des confesseurs, pour savoir comment aider justement les pénitents qui viennent se confesser selon la tradition catholique, n'est-ce pas ? Ce sont eux qui élaborent un code de confession qui est encore utilisé aujourd'hui, en principe, qui a en principe autorité jusqu'à aujourd'hui dans l'Église catholique. Bon, Lavigery est un homme qui est extrêmement marial, qui a une vision du culte marial très poussée. Il écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « La gloire de Marie », pour essayer de ravigorer un petit peu le culte marial. Il n'empêche que ce mouvement est insuffisant pour enrayer la montée du rationalisme en milieu catholique. Nous avons vu comment le protestantisme avait été touché par le rationalisme, mais le catholicisme, bien qu'un peu moins touché, l'est aussi parfois assez considérablement. Et notamment, le rationalisme va stériliser la piété. Ce qui avait fait, si vous voulez, la force de la contre-réforme catholique, c'était l'accent qui avait été mis sur la piété. Et en particulier, si vous voulez, les jésuites avaient été ceux qui avaient tenté de ravigorer ainsi la piété. En fait, l'expulsion des jésuites, d'une part, d'autre part, la montée du rationalisme vont conduire au résultat inverse et donc à une espèce d'amorce de ce qu'on va appeler la déchristianisation, qui va se concrétiser au moment de la Révolution française et des guerres napoléoniennes qui vont suivre. C'est ainsi, par exemple, que l'évêque de Trèves, qui se nomme Hontheim, H-O-N-T-H-E-I-M, c'est comme ça qu'on dit, Colette ? Oui. Qui est évêque de Trèves, va être gagné par l'idée du droit naturel, donc, si vous voulez, les idées des philosophes. Et ces idées des philosophes vont l'amener à mettre en question l'autorité du pape, qui pour lui n'est pas plus que les autres évêques, ne pourrait être au mieux que le primus inter pares, le premier entre ses pairs. Inutile de dire que l'évêque Hontheim est immédiatement condamné par Rome et qu'il doit se rétracter le plus rapidement possible. Mais son exemple est contagieux et les trois évêques des pays rhénans, l'évêque de Mayence, l'évêque de Trèves, nous l'avons dit, et l'évêque de Cologne, virent aussi dans le rationalisme. Alors là, c'est une véritable fronde qui naît à l'intérieur de l'Église catholique elle-même. Et ça, évidemment, à un moment où l'Église catholique est sur la défensive, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Il y a en particulier autour de l'évêque de Mayence des théologiens qui sont à la fois pétris de philosophie et qui vont remettre en question nombre de dogmes catholiques. C'est ainsi, par exemple, qu'ils vont se mettre à critiquer le célibat des prêtres. Rien de nouveau sous le soleil, vous voyez. C'est des choses qui ressurgissent aujourd'hui dans l'Église catholique. La liturgie, ils veulent, alors ça c'est beaucoup plus intéressant, ils veulent que la Bible redevienne le fondement de la foi, le fondement de la théologie. Ils veulent qu'on revienne à une prédication épurée, à une vie de piété qui est aussi épurée, donc si vous voulez c'est un mouvement assez évangélique. Et aussi ils veulent simplifier la liturgie. Alors bien entendu, à Rome, on n'entend pas cette oreille-là, on l'imagine bien. Et comme maintenant, ça semble être, si vous voulez, un bloc qui se forme là, c'est pas simplement un évêque isolé tant qu'on l'a condamné, comme on a fait pour Gaillot, par exemple. Maintenant, c'est contagieux. Alors là, on va pas se trouver devant une nouvelle scission, un nouveau schisme, une nouvelle réforme comme au XVIe siècle. Ça, c'est la grande peur de l'Église catholique. Alors plutôt que d'affronter le problème comme on l'a fait avec Luther, n'est-ce pas, dans un affrontement frontal. Eh bien, on va agir, n'est-ce pas, par des enveloppements, par les ailes, quoi. Hein. Alors, on discute. Finalement, la tactique catholique est simple dans ces cas-là, n'est-ce pas? Ils isolent les contestataires, ils attendent qu'ils meurent. Puis après, quand ils meurent, ils mettent des gens qui sont acquis à leur cause sur les trônes épiscopaux, puis c'est terminé. C'est exactement ce qui va se passer. N'empêche que pendant tout un temps, il y a un certain flottement, et puis pendant ce temps-là, dans les évêchés qui sont touchés par les mouvements nationalistes et un affaiblissement de la foi catholique inévitable. Bien, et c'est dans ce contexte-là alors qu'éclate la Révolution française. La Révolution française n'est ni plus ni moins que la concrétisation de l'idée, des idées des philosophes du XVIIIe siècle, et notamment de Jean-Jacques Rousseau. Là, maintenant, après avoir, pendant la première partie du siècle, mis au point la théorie de la chose, maintenant on va passer à la pratique. Et quelle pratique ? Quelle pratique ? La Révolution française est une réaction violente contre l'alliance entre le trône et l'autel, c'est-à-dire justement pour cette autonomie de l'État. C'est en France que va naître pour la première fois justement l'État autonome, l'État souverain, l'État sacré. D'ailleurs, la Marseillaise, cet horrible chant raciste, qui devrait faire notre honte en tant que Français, le dit bien, amour sacré de la patrie. La patrie est quasiment divinisée. L'État est quasiment divinisé. Et au nom de l'État, pour le bien de l'État, eh bien, on va sacrifier au Moloch des milliers de personnes, des millions. Et la Révolution française va provoquer un véritable génocide. Et ce sera le prototype du génocide hitlérien. Hitler prendra des leçons de ce qui s'est passé à la Révolution française. Car la Révolution française, ce n'est pas simplement les quelques milliers de guillotinés. La Révolution française, c'est tout l'Ouest qui a été dépeuplé par les armées bleues. Ce sont les répressions sanglantes de tous ceux qui osaient bouger le petit doigt. C'est ensuite, n'est-ce pas, les guerres hors des frontières aussi qui ont massacré des millions et des millions de gens. C'est quelque chose d'horrible, et finalement, s'il y a du positif, comme dans toute chose, finalement, il y a beaucoup plus de négatif. Alors, bien entendu, il y avait des abus, il y avait des excès qui rendaient une telle révolution quasi inévitable. Ça, c'était quelque chose qu'on pouvait sentir venir. Que les dirigeants de l'époque, Louis XVI en particulier, et ses ministres, n'ont pas su apprécier. Encore qu'il y avait le ministre de la guerre de Louis XVI qui, le jour du 14 juillet 1789, avait bien compris ce qui était en cours. Il avait été voir Louis XVI. Louis XVI, qui était déjà un homme, lui aussi, pas mal touché par les idées du XVIIIe siècle. Dans le fond, c'était dans l'air du temps. On respirait ça avec l'air ambiant. Et Louis XVI n'était pas un despote éclairé comme l'était Catherine de Russie ou comme l'était Joseph de Prusse. Mais c'était quand même quelqu'un qui n'était pas insensible entièrement aux idées des philosophes, d'autant que lui-même n'était pas quand même quelqu'un qui avait une énergie comme son grand-père Louis XIV. Le ministre de la guerre vient le voir le soir du 14 juillet, dit « Écoutez, sire, permettez-moi de couper 10 têtes et je vous garantis que vous resterez sur votre trône. » Alors Louis XVI a réfléchi un instant, il a dit « Le sang a suffisamment coulé, non, je refuse. » Alors son ministre a dit « Écoutez, sire, je vous demande d'avoir une autorisation, c'est de partir immédiatement hors des frontières. » Il avait compris ce qui allait se passer. Il avait compris que, ou bien alors, on étouffait le mouvement dans l'œuf, pendant qu'il en était encore temps, d'où justement sa demande au roi, donnez-moi l'autorisation de couper 10 têtes, les têtes des principaux meneurs, enfin 10, c'était un chiffre rond, quoi. Hein. C'était une idée, c'est-à-dire un petit nombre, finalement. Il dit, si on coupe 10 têtes maintenant, eh bien, on évitera que des millions de têtes soient coupées après. C'est ça qu'il avait vu. Alors, ça se discute. Sur un plan éthique, hein, sur un plan moral. Mais enfin, politiquement, il avait vu juste, il n'y a aucun problème. Politiquement, il avait raison. Et puis donc, Louis XVI a refusé, et puis ce qu'avait vu son ministre s'est accompli, c'est-à-dire que le mouvement est devenu incontrôlable. Alors, les choses avaient commencé, nous l'avons vu il y a quelque temps de cela, on en a parlé un petit peu, je vais y revenir très brièvement, avaient commencé par la convocation des États généraux, quand ces États généraux qui n'avaient plus été convoqués depuis fort longtemps, n'est-ce pas ? Et notamment, il y avait un écrit, n'est-ce pas, de Lafayette, qui était donc allé faire la guerre aux États-Unis pour le compte justement des États-Unis, écrivait quelque chose de très intéressant que je vais vous lire. Les protestants, dit-il, sont soumis à un intolérable despotisme. Bien qu'il n'y ait pas de persécution ouverte, ils dépendent du caprice du roi, de la reine, du parlement ou d'un ministre. Leurs mariages ne sont pas légaux. Leurs testaments n'ont aucune force devant la loi. Leurs enfants sont considérés comme des bâtards. Leurs personnes sont pendables. Je voudrais amener un changement dans cette situation. Pour cet objet, je vais, sous quelque prétexte, avec le consentement de M. de Castries ou d'un autre, visiter leur principale résidence. Je tâcherai ensuite d'obtenir l'appui de M. de Vergennes et du Parlement avec celui du garde des Sceaux qui fait fonction de chancelier. C'est une œuvre qui demande du temps, qui n'est pas sans quelque inconvénient pour moi, parce que personne ne voudrait me donner un mot écrit ni soutenir quoi que ce soit. Je cours ma chance. Lorsque dans le courant de l'automne ou d'hiver, vous apprendrez que quelque chose a été fait de cette manière, je désire que vous sachiez que j'y ai contribué. Et ça a été donc le fameux édit de tolérance de 1785 dont nous avons déjà parlé, qui a précédé de quelque temps justement la Révolution française. Alors la Révolution française a éclaté lorsque les États généraux ont été convoqués et les États généraux avaient été préparés, nous savons, par la préparation de ce qu'on appelait les cahiers de doléances. Chaque commune devait écrire dans un cahier les points sur lesquels elle avait des problèmes, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, ça s'était emmené à Paris par les représentants du tiers-État qui devaient présenter ces différentes doléances, les synthétiser, les grouper, les classer, puis essayer de voir comment on pouvait y remédier. Bon, les protestants ont été tenus à l'écart de cette préparation des États généraux, donc de cette préparation de la Révolution. Ils n'ont absolument pas trempé dans cette affaire en rien. Au contraire, dans de nombreux cahiers de doléances, il y a justement des plaintes qui sont écrites contre les protestants. Bien entendu, ces plaintes sont souvent manipulé en sous-main par le clergé local. Là où il y a des traces de protestantisme, le clergé est le plus hostile et par conséquent, on a des demandes au roi de sévir fortement contre ces hérétiques, contre ces protestants. Les meilleurs, n'est-ce pas, demandent que les protestants soient expulsés, alors qu'on ne peut pas dire les autres, on demande qu'ils soient pendus, brûlés, enfin tout un ensemble de joyeuses choses comme ça. Il faut dire que quand même, le protestantisme n'est pas la préoccupation première des citoyens, enfin on n'appelle pas encore ceux des citoyens, des sujets du roi à cette époque-là, n'est-ce pas? Par conséquent, deux tiers à peu près des cahiers de doléances ignorent complètement les protestants. Un tiers quand même les mentionne, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que c'était quand même un problème pour beaucoup de gens, et en particulier pour beaucoup de curés, parce que, en général, les cahiers de doléances, il faut bien le dire, dans la plupart des villages, étaient rédigés par les curés, parce que les curés étaient les seuls qui avaient quelques lettres. La plupart des gens étaient encore illettrés à cette période-là. Par exemple, il est intéressant de noter que dans les régions à forte implantation protestante, comme par exemple le Poitou, les Cévennes, Languedoc, etc., eh bien, on a là les cahiers de doléances qui sont les plus virulents contre les protestants. Bien entendu, ça, c'est un peu facile à comprendre. Dans les meilleurs des cas, on demande que les biens des protestants soient enlevés. Par exemple, on trouve que en Normandie, la Normandie est indifférente, bien qu'il y ait une certaine implantation protestante là-bas. En Bretagne, il n'y a rien, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de protestants. Donc, automatiquement, en Bretagne, il n'y a pas de doléances qui sont présentées contre les protestants. D'autre part, pas eu d'effet dans ce domaine-là, et que les protestants n'ont toujours pas récupéré les biens auxquels ils avaient droit. Lorsque éclate la Révolution française le 14 juillet, on constate qu'un certain nombre de protestants s'associent au mouvement, spontanément, bien qu'ils ne l'aient pas préparé, qu'ils les prennent par surprise, bien qu'ils soient en dehors du coup, soudain ils le rejoignent. Ils le rejoignent pour une raison très simple, c'est que précisément l'édit de 1785 ne les satisfait pas pleinement, d'autant que justement il n'a pas été suivi d'effet entièrement, tant et si bien que ils voient justement dans le mouvement du 14 juillet 1789 une occasion de faire triompher leurs droits, et finalement ils se retrouvent assez quand même, faut bien le dire, dans les idées des philosophes qui sous-tendent le mouvement. Et on n'a pas oublié au milieu protestant l'intervention de Voltaire au moment de l'affaire Calas, des choses comme ça, qui font que les révolutionnaires sont quand même des gens qui sont sympathiques aux protestants. Ou plutôt, les protestants les considèrent avec sympathie, disons. Et c'est ainsi, par exemple, que les protestants au Poitevin décident que le 14 juillet sera désormais pour eux, d'année en année, jusqu'à la fin des temps, un jour d'action de grâce. C'est assez amusant, c'est assez curieux de constater ça. Bon, ça n'a jamais été suivi d'effet, bien entendu, mais enfin, c'est ce qu'ils avaient imaginé à cette période-là. Hélas, le mouvement va rapidement dégénérer et les protestants français vont aussi devoir rapidement déchanter. Bien sûr, nous l'avons vu, il va y avoir cette intervention de Rabaud de Saint-Étienne, nous en avons parlé quand nous avons parlé de ce personnage-là, et qui va arracher justement l'égalité des droits. Et les protestants vont enfin recevoir, n'est-ce pas, ce que même l'édit de 1785 ne le reconnaissait pas, puisqu'ils avaient des droits, mais ils n'avaient pas l'égalité des droits. L'édit de la Constituante, n'est-ce pas, va leur permettre d'obtenir cette égalité des droits, chose qu'ils vont d'ailleurs partager avec la minorité juive qui se trouve en France. N'est-ce pas ? Mais hélas, les choses, comme nous l'avons vu, ne vont pas en rester là. Et dans le domaine de la révolution qui va éclater alors, les choses vont. J'en suis dans mes affaires moi, là-dedans. Oui, c'est ça. Les choses vont considérablement déraper. Le clergé, bien entendu, pendant tout le premier temps de la révolution, ça s'accroche à ses privilèges. Il faudra attendre la fameuse nuit du 4 août, vous savez, n'est-ce pas, pour que, après cette discussion marathon, eh bien, le clergé et la noblesse abandonnent leurs privilèges. Je ne sais pas si ça, on apprend encore ça dans les écoles. Non, je ne sais plus. On apprenait ça par cœur, nous, notre temps. Hein. On a souffert dans notre jeunesse, nous. Bon, et alors, là, intervient alors un fait nouveau. La Constituante vote ce qu'on appellera la Constitution civile du clergé. Et ça, c'est vraiment une révolution, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, pour la relation entre l'Église et l'État. Parce que la constitution civile du clergé prévoit quoi ? Eh bien, prévoit que les ecclésiastiques, quels qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou protestants, ça vaut pour les prêtres, ça vaut pour les pasteurs et ça vaut pour les rabbins juifs, qui viennent d'être reconnus comme citoyens à part entière et donc comme religion licite, si j'ose dire. Eh bien, ça veut dire ceci, n'est-ce pas, que les principes démocratiques qui régissent le nouvel État vont jouer dans tous les domaines, y compris dans l'Église. Ça veut dire que maintenant, l'organisation de l'Église ne sera plus pyramidale, ne sera plus hiérarchique, mais elle sera démocratique. Alors, voyez-vous, c'est intolérable pour l'Église catholique, parce que c'est toucher à son système, c'est toucher à sa structure, c'est toucher à sa philosophie, c'est toucher à sa théologie. Et l'Église catholique, depuis Rome, ne pouvait que réagir négativement. Au niveau des protestants, ça ne leur pose pas de problème, parce que l'organisation était déjà démocratique. Donc ça ne pose aucun problème. Par exemple, dans un article, les ecclésiastiques doivent être élus par la communauté, et non plus désignés par Rome. C'est-à-dire que chaque communauté locale doit désigner son prêtre. Alors ça, au niveau protestant, ça ne pose pas de problème. Au niveau juif non plus, d'ailleurs. Au niveau catholique, c'est inacceptable. C'est court-circuiter complètement Rome. Et là, si vous voulez, vous avez une résurgence du vieux fond gallican qui avait marqué donc déjà le siècle précédent avec Louis XIV. Là, l'Église catholique française est coupée complètement de Rome. C'est un schisme. C'est un schisme total. Même, par exemple, des non-croyants, finalement, peuvent élire, intervenir dans l'élection d'un prêtre, dans l'élection d'un évêque. Finalement, pour les évêques, ce ne sont pas élus par la communauté, mais ils sont élus par les autres évêques. Ils ne sont plus désignés par Rome. Alors, vous savez, ça a toujours été un casus belli, ça. Déjà, c'était là le problème à l'époque du Moyen-Âge, entre les papes et les empereurs, quand les papes voulaient désigner eux-mêmes les évêques et faire ensuite avaliser le choix par Rome. Hein, ça a été un conflit terrible. Et voilà que ce conflit ressurgit. Il ressurgit maintenant au niveau de la France. Toujours la France, fille aînée de l'Église, entre guillemets, c'est toujours elle qui est un petit peu en pointe dans ce genre de conflit-là. Déjà, sous François Ier, ce genre de conflit aussi avait éclaté. Bon, on retrouve ça ensuite avec, bien entendu, Louis XIV. Et ça, c'est le résultat de l'absolutisme français. Voyez-vous, les révolutionnaires sont finalement des catholiques laïcisés. Des catholiques, si vous voulez, qui ont une réaction de catholiques. Ils ne se veulent plus catholiques, ils ont abjuré la foi catholique, mais finalement, ils réagissent comme des catholiques. Les catholiques de formation sont imprégnés par le catholicisme et ils réagissent comme ça. Alors, troisièmement plus exactement, les prêtres qui sont ainsi élus, ou les évêques, doivent prêter serment de fidélité à la nouvelle constitution. Alors ça aussi, c'est absolument incroyable. Nous retrouvons ce que nous disions tout à l'heure, la primauté de l'État, l'État prime surtout. Ce qui est sacré avant toute chose, c'est la Constitution. Et là où le livre des Actes dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, les révolutionnaires disent il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Voilà. Et ça, vous le retrouvez aujourd'hui. Vous le retrouvez dans les États modernes. Et les États modernes réaffirment cela de plus en plus. Alors, bon, ce serment de fidélité, ça implique la rupture avec Rome, automatiquement. Et la réaction du pape Pie VI ne se fait pas attendre. Pie VI interdit de prêter serment de fidélité à la Constitution française. Il déclare que tout prêtre, même tout catholique de base, qui prêtera le serment, sera excommunié par l'Église catholique et ne fera donc plus partie de l'Église catholique. Alors, pour le clergé français, c'est un drame. Et le drame, ça va être qu'il va y avoir un certain nombre de prêtres qui vont accepter de désobéir au pape et donc de se soumettre à l'État français. C'est ce qu'on va appeler les prêtres assermentés. donc ceux qui ont prêté serment, ce faisant, ils ne sont plus dans la communion avec Rome, il y a un schisme. L'Église, cette partie de l'Église catholique de France qui a prêté serment à la Constitution est schismatique pour Rome. Et puis il va y avoir ceux, une minorité, qui vont refuser de prêter serment. Et à ce moment-là, ils restent fidèles à Rome, mais ce faisant, ils sont en contradiction avec les lois françaises. Ils sont donc hors la loi. À partir du moment où ils refusent de prêter le serment. C'est ce qu'on appelle les prêtres réfractaires. Et des milliers d'entre eux vont périr sur la guillotine ou dans des conditions diverses, n'est-ce pas ? D'autres s'exileront, d'autres se cacheront, continueront à mener des activités spirituelles clandestines, n'est-ce pas ? Et voilà que maintenant, il va y avoir un curieux retour de l'histoire. L'Église catholique française, qui a été persécutrice, va se trouver maintenant dans une position de persécutée. Et la persécution va être terrible. Les prêtres réfractaires sont traqués comme des bêtes sauvages, comme l'étaient les pasteurs, hein, du temps où ils avaient la puissance. Ceux qui les cachent sont passibles des peines les plus sévères, c'est-à-dire de la mort, parce que finalement, la seule peine prévue par les tribunaux révolutionnaires, c'est la mort. Il n'y a pas de milieu. Pour une peccadille, vous pouvez vous retrouver sur la guillotine. Et par conséquent, la situation du clergé réfractaire, comme on va l'appeler, va être une situation extrêmement difficile. Bon, les choses continuent à se dégrader. En 1793, éclate la terreur. Ce qu'on appelle la terreur, ça veut dire que la patrie est déclarée en danger, pour deux raisons, parce que la France est attaquée sur ses frontières, par les pays voisins. C'est ce qu'on appelle la levée en masse. Et puis, à l'intérieur, n'est-ce pas, les forces qui sentent qu'ils sont appuyés de l'extérieur, les forces traditionnelles, notamment ici dans l'Ouest, en Vendée, Bretagne, etc., la chouannerie se développe. Et le gouvernement révolutionnaire déclare la patrie en danger et par conséquent décide d'instaurer ce qu'on appelle officiellement la terreur. C'est-à-dire que toutes les libertés sont supprimées, toutes les libertés qui ont été votées par la Constitution, toutes absolument sont supprimées. Le gouvernement est tout entier entre les mains de ce qu'on appelle un comité de salut public qui a tous les pouvoirs discrétionnaires. Et qui agit, comme le dit son nom, dans l'intérêt du salut public, pour le salut de la République, n'est-ce pas ? Et qui ne tolère aucun acte de rébellion. Aucun acte de rébellion contre la République. Tous ceux qui ont l'apparence même de se rebeller, qui sont dénoncés simplement, il y a des gens qui étaient absolument innocents, comme l'agneau qui vient de naître, mais qui sont dénoncés, et ça, vous savez, dans ces moments-là, c'est les vendettas, ça va bon train, c'est facile de régler des comptes avec des gens ou des voisins ou des parents, parfois même, n'est-ce pas, avec lesquels on a eu des problèmes, en les dénonçant au comité de salut public. Les dénonciations sont anonymes, donc il n'y a aucun risque. Et c'est ainsi que des charrettes entières de gens sont arrêtés, déférés devant le tribunal révolutionnaire. Et quand on est déféré devant le tribunal révolutionnaire, à 99,9 chances sur 100, même si on est innocent, on est à peu près sûr d'être condamné à mort. La seule peine, c'est la mort. Être déféré devant le tribunal, c'est déjà synonyme quasiment d'être condamné. Il y a quelques cas rarissimes où des gens seront acquittés, mais logiquement, il n'y a pas d'acquittation imaginable. Alors, au début, on est guillotiné immédiatement. La charrette vous attend en sortant du tribunal révolutionnaire pour vous emmener directement à la guillotine. Bon, après ça, bien, le nombre des condamnés sera tellement nombreux que le bourreau, malgré toute sa bonne volonté, ne peut pas fournir. Et alors, bon, les gens sont enfermés, ça peut durer des mois, ben, d'ailleurs, avant qu'on soit exécuté, n'est-ce pas ? C'est tout à fait anarchique, d'ailleurs, comment ça, les exécutions se passent d'une manière tout à fait anarchique. Il y a les piles de dossiers. Alors, finalement, le bourreau, il prend les dossiers du dessus, c'est-à-dire les derniers arrivés, quoi. Hein. Alors, par exemple, ceux qui sont emprisonnés depuis 8 jours ont beaucoup plus de chances d'être exécutés que ceux qui sont emprisonnés depuis 6 mois. Vous avez des gens qui vont réussir à échapper à la guillotine comme ça, parce qu'ils ont eu la bonne fortune d'avoir leur dossier tout à fait en fin de pile, quoi. Puis le bourreau n'avait pas le courage d'aller jusqu'au fond du tiroir, quoi. Hein. Et puis, au moment de Thermidor, quand aura lieu la chute de Robespierre, ben, ils auront comme ça l'avantage d'être épargnés. Ce sera le cas, par exemple, de Joséphine de Beauharnais, qui deviendra l'épouse de Napoléon Bonaparte, qui a été condamné à mort, enfermé, et puis qui a eu la bonne fortune de son nom n'est jamais sorti au moment des exécutions quotidiennes. Hein. Bon, alors voilà comment ça se passe à ce niveau-là. Et en même temps, n'est-ce pas, la Convention déclare le christianisme aboli. Dans l'État, n'est-ce pas, dans lequel se trouve la France, on déclare le christianisme aboli. Robespierre, qui a pris tous les pouvoirs, n'est-ce pas, est un adepte des philosophes des Lumières, c'est un rousseauiste, n'est-ce pas ? Et il va mettre en pratique les théories des philosophes. Et notamment, justement, il déclare que le christianisme est remplacé par ce qu'il appelle le culte de l'être suprême et de la déesse raison. Alors, on en a parlé de Rabaut de Saint-Étienne, la mascarade qui a trimballé une espèce de prostituée costumée avec un bonnet phrygien, là, une danseuse étoile de l'opéra, je ne sais pas quoi, à Notre-Dame, un cortège formidable, au culte de la déesse raison, Notre-Dame qui a été consacrée au culte de la déesse raison. Bon, cette mascarade n'a pas duré longtemps, finalement, c'était tellement grotesque qu'à la chute de Robespierre, tout est rentré dans l'ordre. Alors, Robespierre avait institué non seulement le culte de l'être suprême, mais il avait aussi changé le calendrier. D'ailleurs, c'est presque un signe prophétique, n'est-ce pas ? L'Antichrist changera aussi les calendriers et les lois, nous dit le livre de Daniel. Hein ? C'est la seule fois dans l'histoire où on a tenté de supprimer d'une manière sérieuse le calendrier chrétien. Alors, la semaine a été remplacée par des décades, n'est-ce pas ? Décadies. Alors, des périodes de 10 jours, et le 10e jour était chômé, et non plus des périodes de 7 jours. Les mois ont reçu des noms nouveaux, n'est-ce pas ? Il y avait ventose, pluviose, thermidor, fructose, enfin, c'était en relation avec les saisons, tout ça, parce que les révolutionnaires étaient des gens un peu écolos sur les bords, à leur manière, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'a été écrit, vous savez, le fameux chant Il pleut bergère, enfin, vous voyez, ça vous donne un peu le ton, quoi. C'était... Le romantisme, c'était un petit peu la naissance du romantisme et tout ça, quoi. Alors là, automatiquement, tout ça, ça a été le bouleversement total. Alors, l'ère chrétienne a été abolie, on a compté les années à partir, n'est-ce pas, de la Révolution française, qui était l'an 1. Alors ensuite, il y avait l'an 2, l'an 3, etc. Ça n'a pas été loin, n'est-ce pas ? Quand Napoléon est arrivé au pouvoir, il a supprimé tout ça, puis il est revenu au calendrier normal. N'empêche que, dans les archives officielles de la France jusqu'à aujourd'hui, pendant cette période révolutionnaire, on cesse de compter les années selon le calendrier chrétien, n'est-ce pas ? Mais on le compte d'après le calendrier républicain. Et dans la loi française, jusqu'à ces derniers temps, jusqu'à ce que ça se libéralise, par exemple, quand Yael est né, c'était encore en vigueur cette loi, n'est-ce pas ? Nous nous sommes heurtés quand nous avons voulu déclarer Yael sous son prénom, n'est-ce pas ? Devant cette loi qui disait que ne pouvait être reconnu et enregistré à l'état civil comme prénom dans tout le territoire de la France et de la Navarre que ce qui émanait du calendrier, des saints du calendrier ou du calendrier républicain. Ça, c'était toujours en vigueur. N'est-ce pas ? Le calendrier républicain était toujours en vigueur. Alors voilà, si vous voulez, ça a été comme ça jusqu'à la chute de Robespierre en 1795. Finalement, Robespierre a multiplié les excès d'une telle manière que ben finalement, il a fini par être arrêté, puis le guillotineur est devenu guillotiné à son tour, quoi. Après avoir guillotiné tout le monde, eh bien, il a fini par être guillotiné à la grande joie de tous ceux qui risquaient encore de l'être, n'est-ce pas ? Parce que là, ça a été la fin de cette période de terreur abominable qui avait marqué la France. Voilà, si vous voulez s'arrêter là pour ce soir, et puis la prochaine fois, on reverra justement cette révolution, parce qu'elle a eu de telles incidences qu'il faut encore y revenir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?